Bonjour Christelle Lerobière.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, l'Ukraine consacrée au concours de l'Eurovision. Et c'est beaucoup plus qu'une chanson. Notre musique conquiert l'Europe. Salut ce matin le président Zelensky. Nous irons à Kiev retrouver notre envoyé spécial où l'on est fier évidemment que la culture ukrainienne soit reconnue. On y revient après les autres titres, Christelle.
Une guéguerre droite-gauche à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le républicain Laurent Wauquiez veut tailler dans les aides à la culture à Lyon, ville tenue par un écologiste. Dans ce journal aussi, une tuerie raciste dans l'État de New York. Il y a au moins 10 morts, pour la plupart des Noirs, tués par un jeune suprémaciste blanc.
Oui, et on va y revenir à 8h20 pour mieux comprendre cette société américaine qui se prépare aussi à un possible retrait du droit à l'avortement. Notre invité sera l'historien François Durper, spécialiste des États-Unis.
La canonisation de Charles de Foucault, ce sera tout à l'heure à partir de 10h au Vatican. Une demi-finale de Coupe d'Europe de rugby qui se joue dans un célèbre stade de foot à Lens cet après-midi. Et vous saurez pourquoi dans le journal des sports de Laetitia Bernard. Enfin, la bière, vous l'aimez comment ? Ambrée, fumée, à la châtaigne, les formations de brasseurs se multiplient dans notre pays et même à l'heure du petit déjeuner, ce n'est pas indigeste.
France Inter.
La victoire en chantant. L'Ukraine a donc remporté cette nuit le concours de l'Eurovision pour la troisième fois en moins de 20 ans. Le groupe Kalouche Orchestra s'est imposé devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Oleg Psiouk, le leader du groupe, a remercié l'Europe.
Je voudrais remercier tous les Ukrainiens, la diaspora ukrainienne et tous les gens qui dans le monde entier ont voté pour nous et nous ont aidés à offrir cette victoire à l'Ukraine. Ce succès est très important pour notre pays et particulièrement cette année. Donc merci du fond du cœur et gloire à l'Ukraine.
Alors, il y a sans doute le talent du groupe Kalouche Orchestra et de son titre Stéphania, un mélange de hip-hop et de folklore local. Il y a ces paroles qui résonnent avec l'actualité. Je trouverai toujours le chemin de la maison, même si les routes sont détruites. Et beaucoup, beaucoup de géopolitique. Ça n'a d'ailleurs pas échappé à Volodymyr Zelensky. Bonjour Valérie Krova.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Kiev et ce matin, les Ukrainiens ressentent une fierté pour leur pays et surtout pour leur culture.
Oui, il suffit de lire d'ailleurs le message que Volodymyr Zelensky a publié sur sa page Facebook ce matin. « Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe », écrit Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien espère qu'un jour, la ville de Mariupol pourra accueillir l'Eurovision. Mariupol libre, pacifique et reconstruite, ajoute-t-il, allusion aux dégâts importants qu'a subi la ville portuaire, symbole de la résistance des combattants ukrainiens de l'usine Azovstal. Pour l'heure, l'armée de Vladimir Poutine occupe Mariupol et ne compte pas en partir. En revanche, rien ne s'oppose à ce que la capitale Kiev puisse organiser l'Eurovision en 2023, comme le souhaite le président du Conseil européen, Charles Michel, dans une Ukraine libre et unie, a-t-il précisé. Derrière les mots, le message politique est fort. La victoire de l'Ukraine à l'Eurovision, c'est aussi une façon de rendre hommage à sa culture, à son identité. Écoutez Anna, elle a 33 ans, elle habite Kiev.
Je suis super heureuse, je suis super fière, parce que c'est la chanson qui est ukrainienne. Elle représente le pays, je veux dire qu'elle a des instruments, il y a des instruments traditionnels. Et si le monde a aimé, je suis super contente, je suis super fière.
Et à l'instar de cette jeune femme, c'est tout un peuple qui défend aujourd'hui sa singularité à travers un groupe de musique dont les membres vont rentrer d'ici peu en Ukraine. Ils ont bénéficié d'une dispense provisoire, le temps du concours de l'Eurovision. Mais comme tous les hommes de leur âge, ils peuvent être amenés à prendre les armes pour défendre leur pays.
Valérie Krova en direct de Kiev avec Laurent Macchietti à la technique. Merci. À noter que la France, représentée par les Bretons du groupe Alvan et Aez, ont fini avant-dernier. Pourtant, leur titre, Fulen, signifiait étincelle. Vladimir Poutine a mis en garde hier la Finlande. Entrer dans l'OTAN serait une erreur, mais ce pays jusque-là neutre doit officialiser aujourd'hui sa candidature qui sera sans doute groupée avec celle de la Suède. Quant aux ministres des Affaires étrangères du G7, ils affirment que jamais leur pays ne reconnaîtront les frontières que la Russie tente de modifier. Jean Castex, toujours Premier ministre, il reste à Paris aujourd'hui pendant qu'Emmanuel Macron est à Abu Dhabi aux funérailles du président. Quant au futur locataire de Matignon, si c'est une femme, Edith Cresson Besançon lui souhaite bien du courage. Elle a été la seule à exercer cette fonction sous la Ve République durant 11 mois, il y a 30 ans. Dans les colonnes du journal du dimanche, elle trouve scandaleux qu'on pose encore la question dans notre pays de nommer une femme à ce poste. Mais elle précise, ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est la classe politique.
Et la politique ce matin, c'est aussi Laurent Wauquiez, le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui coupe une partie des subventions à la culture.
Oui, et le maire écologiste de Lyon s'étrangle, les acteurs culturels aussi, Mathilde Imberti.
La Biennale d'art contemporain va devoir renoncer à une partie de son programme, prévient la directrice. Pas le choix, avec un trou dans le budget de 253 000 euros.
C'était la part région qui a été diminuée de près d'un tiers à quelques semaines de l'ouverture.
Isabelle Bertolotti.
Et alors les conséquences de cette annonce sont pour nous assez catastrophiques puisque toutes les sélections d'artistes sont faites, les productions aussi, avec des entreprises fragilisées et donc des difficultés de recherche de mécénat. Il faut qu'on trouve pour l'instant une solution qu'on n'a pas.
On signe notre arrêt de mort, c'est le musée d'architecture Tony Garnier qui parle de fermer au 30 juin. Indignation relayée politiquement par l'opposition. Pascal Boniel-Chalier, conseillère régionale Europe Écologie des Verts, membre de la commission culture.
J'aimerais comprendre que ces budgets vont être répartis sur d'autres structures. On n'a pas plus de moyens pour l'instant sur d'autres structures indépendantes, sur des structures qui seraient dans des territoires ruraux, dans des quartiers en politique de la ville. Donc il n'y a pas d'autre raison que de vouloir effectivement attaquer les majorités de gauche et écologistes.
Laurent Wauquiez parle de rééquilibrage territorial. C'est aux collectivités locales, écrit-il, de financer les structures à l'empreinte strictement lyonnaise. Entre la région et les écologistes, voici un nouveau terrain d'affrontement, la culture. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Ils seront 10 à être canonisés ce matin, place Saint-Pierre à Rome, 10 dont 3 Français, et en particulier Charles de Foucauld. Plus de 100 ans après sa mort, il va être reconnu comme un saint, hussard, noceur, puis explorateur. Il a fini ermite en Algérie. Un parcours atypique, Bruce de Galzin.
C'est un homme complexe, Charles de Foucauld, aristocrate fortuné, mais orphelin à 6 ans. Il sera ermite dans le désert, mais avant cela, militaire, pas vraiment discipliné, un peu artiste, le lettré fêtard, ne trouvait pas sa place dans l'armée, selon son biographe Pierre Sourisseau.
Il était en garnison, et là, il n'a pas aimé. Il aurait préféré être au contact dans le bled, et c'est là qu'il a vraiment donné toute sa personnalité quand il a été au contact avec des tribus arabes qui se révoltaient. Et c'est à partir de là qu'il a senti un appel vraiment à connaître ce monde musulman.
Il quitte l'armée, rejoint le Maroc, se rapproche des musulmans et retrouve la foi chrétienne. Il devient moine en France, puis à Jérusalem, avant d'être ordonné prêtre, de retrouver le Maghreb et de se lier avec les Touaregs.
Quelle que soit la personne rencontrée, il veut être au service de tout homme. Son but, c'était mettre près de chacun un peu la charité de Jésus. Jesus Caritas, voilà sa devise.
Prêtre savant, Charles de Foucauld a écrit un dictionnaire français touareg qui fait encore autorité. Il meurt assassiné à Tamanrasset, seul, mais au milieu des pauvres. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Un crime ouvertement raciste aux États-Unis. Un jeune homme blanc a tiré majoritairement sur des noirs dans un supermarché de Buffalo dans l'État de New York, faisant au moins 10 morts. Le FBI affirme qu'il s'agit d'un crime motivé par la haine et l'extrémisme à motivation raciale. Le jeune homme portait un casque, un gilet pare-balles, une caméra. Il a diffusé en direct sa tuerie sur le réseau social Twitch avant d'être arrêté. Pas question de revenir sur le droit à l'avortement qui existe depuis 1973. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier aux États-Unis pour défendre ce droit menacé par la Cour suprême. À New York, Loïc Louhiri a rencontré Alissa, 19 ans.
Aucun homme ne devrait avoir le moindre mot à dire sur ce que nous faisons avec notre corps. Ce ne sont pas eux qui portent les enfants. Ils peuvent les abandonner. Ils n'ont pas à être là. Nous sommes celles qui nous en occupons, leur fournissons le nécessaire. Alors pourquoi devrions-nous laisser les hommes nous dire ce que nous pouvons faire ou non? Ils n'ont pas leurs règles, ils n'ont pas les crampes, le cycle des hormones, tout ça. Ils ne connaissent pas. Alors de quel droit nous disent-ils quoi faire? Ce n'est pas juste. C'est mon corps, c'est mon choix. Je fais ce que je veux, que ça leur plaise ou non.
Et vous y reviendrez avec votre invité après ce journal, François Durpère, historien, spécialiste des États-Unis. Le Covid, la Corée du Nord a reconnu un premier mort jeudi. On en est à 42 désormais et l'épidémie flambe. Plus de 820 000 cas recensés dans ce pays qui a fermé ses frontières depuis le début de la pandémie il y a plus de 2 ans. À l'inverse, la Chine voisine semble desserrer l'étau sur Shanghai. Après 2 mois de confinement, la ville de 26 millions d'habitants annonce la réouverture progressive des commerces à partir de demain.
Allez, on va s'en déboucher une. En France, vous l'avez sans doute remarqué, les petites marques de bière pullulent.
Les brasseries artisanales se multiplient, une quarantaine au début des années 2000, plus de 2300 aujourd'hui. Nous sommes même le pays européen qui compte le plus de brasseries par habitant. Et les formations sont prises d'assaut. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Des formations qui avaient pourtant disparu.
Oui, au creux des années 80 et qui ont été relancées il y a 3 ans. La première promotion est sortie en 2019 et depuis le succès ne se dément pas, notamment auprès des salariés en reconversion. À Douai, par exemple, la formation qui permet de décrocher le titre de brasseur professionnel reçoit 450 candidatures par an pour 24 places. Il faut dire que le métier attire et pour cause, au cours des 2 dernières années, les ventes de bière ont progressé de 9% en volume et de 16% en valeur.
Et comment expliquer ce succès ?
Eh bien, le renouveau a commencé il y a une dizaine d'années avec des micro-brasseries dans le Nord et en Alsace, mais aussi en Bretagne, en Corse, en Franche-Comté. Aujourd'hui, même le Mont-Blanc a sa bière. Ces brasseries artisanales proposent des goûts particuliers, ambrés, fumés, à la châtaigne, bière de printemps, avec des étiquettes très design, parfois bio, avec beaucoup d'alcool, plus de 5 degrés ou sans alcool du tout. La bière des Hauts-de-France, la Gouda, a même réussi à se hisser à la 7e place du classement des ventes dans la grande distribution. Et pour ceux qui voudraient multiplier les plaisirs, un tout nouveau guide propose une randonnée pour partir à la découverte des quelques 139 bières du Grand Paris.
Et après la route des vins, la route des bières donc. Et vous pouvez retrouver un dossier sur cette passion pour le houblon sur l'application France Inter. Et si vous veniez parler à des inconnus pour lutter contre la solitude et recréer du lien social, l'association Les Écouteurs de Rue invite les habitants du 18e arrondissement de Paris à échanger avec des thérapeutes bénévoles. Une fois par mois, ils installent des chaises sur le trottoir et ils interpellent les passants. C'était hier après-midi, rue des Poissonniers, reportage Faustine Calmel.
L'approche n'est pas toujours facile.
Vous voulez venir nous parler ?
Non, désolé.
Non ! Oh !
C'est vrai qu'il y a une sorte d'interdit à aller vers.
Séverine Bourguignon est la cofondatrice des Écouteurs de Rue.
Alors que là, on regoute à cette dimension très humaine, la simplicité. Quand on n'a pas de jugement, quand on n'a pas de peur, on rencontre les autres.
Sur 2 chaises, face à face, Alix, psychopraticienne, et Fatima, la sexagénaire, s'est arrêtée pour évoquer son problème de logement et finalement bien plus.
Je ne suis pas en sécurité avec la belle-mère, elle nous fait sortir, on n'est pas à l'aise. Et comme j'ai la tension, le diabète, à chaque fois je suis à l'hôpital avec ça. Avec eux.
Une fois franchi le cap de « bonjour, mais pourquoi tu me parles ?» c'est « ah ok d'accord, tu te mets à ma disposition ». Et ça c'est chouette quoi.
Ceux qui prennent le temps de se raconter parlent d'immigration, d'hébergement, de chômage. Sans travail, lumière déprime. Ici, il a pu s'en ouvrir à quelqu'un.
C'est comme si tu es devant un médecin. Tu as l'envie de tout dire, mais chez ta maman ou chez ton frère, tu gardes quelque chose, de lui dire tout, même des choses que je cache. C'est ça qui m'a frappé au cœur. Après cette conversation, je me suis senti en joie. On m'écoute quand même. Ça m'a fait du bien.
Lumière repart, un sourire communicatif aux lèvres. Il promet de revenir dans un mois.
Et un autre lien social. À 8h13 sur France Inter, c'est le sport.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
En football, les lignes ont bougé en haut et en bas du classement de Ligue 1 après l'avant-dernière journée.
Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les perdants. Attention, monument du football français en péril. Saint-Etienne et Bordeaux sont 19e et 20e. Autrement dit, ils ont un pied, voire un pied et demi en Ligue 2 ce matin. Saint-Etienne voudrait encore rêver quand même de la place de barragiste, celle de 18e, occupée par Metz aujourd'hui. Mais les Verts n'ont plus leur destin en main. La semaine prochaine, lors de l'ultime journée. Les Stéphanois devront compter sur un faux pas des Lorrains et faire mieux qu'eux. C'est pas facile de garder la confiance. Écoutez l'entraîneur Pascal Duprat.
Comme toujours, c'est de ma responsabilité pour ce qui est des défaites. Et là, c'est celle de trop. Même si, après la consternation, donc, il y a toujours cette force en moi de m'accrocher, de me dire qu'il reste encore 3 points en jeu. Un match à disputer donc à Nantes et qu'il faut déjà qu'on réussisse à marquer des points. Voilà, c'est ça la mission. Et puis ensuite, on regardera avec fébrilité ce qui se passe sur d'autres terrains.
Bon, rassurez-vous, il y en a quand même qui sourient ce matin. Mmh. Lorient sauvé. Et j'allais dire, comme d'habitude depuis quelques semaines, Monaco. Monaco encore vainqueur et qui récupère la deuxième place devant Marseille. Puis viennent Rennes et Strasbourg pour le top 5. Aujourd'hui, sur les terrains de football, on suivra la Coupe de France féminine. Et cette finale, elle va opposer le Paris Saint-Germain à une équipe au parcours incroyable, celle d'Yzeure dans l'Allier. C'est l'un des plus petits budgets, tenez-vous bien, de la deuxième division féminine. Et elle a réussi à se hisser en finale donc de la Coupe de France pour la première fois de son histoire. Le match se jouera à Dijon cet après-midi.
C'est beau. Une demi-finale de Coupe d'Europe de rugby en terre de football cette fois.
Et oui, qui pour affronter le Leinster irlandais vainqueur du Stade Toulousain. Le Racing 92 affronte le Stade Rochelet cet après-midi et le match, il se joue à Lens. Et oui, au Stade Bollaert. C'est le Racing qui accueille, mais la Défense Arena, où jouent les Franciliens habituellement, est prise par un concert de hip-hop du groupe Section d'Assaut. Cette délocalisation, elle n'est pas vraiment du goût des Rochelais. Le déplacement est jugé trop lointain par les supporters, mais elle répond à une logique économique pour les Franciliens, Fanny Lechevestrier.
Oui, le président du Racing 92, Jackie Lorenzetti, a toujours été très clair. L'antre des ciels et blancs depuis octobre 2017 est avant tout une salle de spectacle, la plus grande d'Europe, plus qu'un terrain de sport. Car comme il ajoute, les Rolling Stones ou Céline Dion rapporteront toujours plus que n'importe quelle rencontre de rugby. Et après 2 ans de crise sanitaire, le renflouement des caisses passe par l'organisation de concerts qui génèrent près de 80% du chiffre d'affaires de l'enceinte. Ce sont donc bien les spectacles qui permettent aux clubs de rugby Hauts-de-Seine de vivre et non la seule billetterie des matchs qui attire en moyenne 15 000 personnes. Voilà pourquoi les délocalisations font partie du quotidien de l'équipe du Racing 92. D'ailleurs, si l'équipe se qualifie pour les phases finales de top 14, elle cédera à nouveau sa place sur la scène de l'Arena à Elton John pour le week-end des barrages. Les joueurs s'en accommodent et pour aujourd'hui, le manager Laurent Travers préfère voir le positif, exporter le rugby sur une terre de football pour séduire un nouveau public.
Et donc, demi-finale de Coupe d'Europe de rugby Racing 92, stage de Rochelet à Lens à 16h.
Merci Laetitia.
Laetitia Bernard dans le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et il faudra composer avec ces 6 alertes aux orages de la Normandie au Val-de-Loire, Jean-Michel Golinski.
Des températures proches de 28 à 31 degrés cet après-midi sur la plupart des régions. L'air plus respirable entre 21 et 25 degrés se cantonnant le long de la Manche sur la Côte d'Azur et la Corse. Avec aujourd'hui un temps lourd et orageux sur une large moitié ouest du pays, des orages de moindre intensité gagnant les régions les plus à l'est ce soir et la nuit prochaine. Ce matin, des orages vont commencer à circuler du Val-de-Loire à la Normandie. En journée, d'autres vont remonter du sud-ouest vers le Massif central, le centre et le bassin parisien. Avec les fortes températures prévues, ces orages seront souvent violents, avec de la grêle, de grosses averses et de fortes rafales. Pour suivre l'évolution prévue des phénomènes les plus forts, il est fortement conseillé de consulter régulièrement la carte de vigilance qui comporte ce matin 6 départements en orange, de la Sarthe à la Normandie.
Et Jean-Michel Golinski, Météo France.